Le journal Alexandre Michler.
Bonjour. Comment combler un déficit de 3 millions de francs? C'est la question qui a rassemblé le conseil municipal de Saint-Imier mardi après le refus du budget 2025 dimanche dans les urnes. Ils doivent en proposer un nouveau sans augmentation d'impôts. Plusieurs mesures ont été décidées. Le maire Corentin Jeanneret nous les présentera dans quelques instants. C'est un phénomène tristement répandu. Le harcèlement scolaire était au cœur d'une conférence qui a fait salle comble mercredi à Saint-Imier. Et pour cause, elle était donnée par une thérapeute française renommée, Emmanuelle Piquet. Elle nous expliquera quelle méthode il existe pour permettre à un enfant de se défendre. En sport, il sera question des deux équipes biennoises de football et hockey sur glace. Nous évoquerons la lourde défaite du FC Bienne hier soir face à Delémont, 5-1. Et puis on parlera bien entendu du derby de ce soir entre le HC Bienne et Berne à la Tissot Arena. C'est un temps généralement ensoleillé qui devrait nous accompagner cet après-midi, du moins en dessus du stratus. Le mercure oscillera entre 4 et 7 degrés au maximum. Le même type de temps est prévu pour ce week-end. Saint-Imier ne veut donc pas perdre de temps et réagit suite au refus du budget par le peuple. Dimanche dernier, le conseil municipal s'est réuni mardi et veut proposer une nouvelle mouture du budget sans augmentation de la quotité d'impôt cette fois-ci. Parmi les mesures proposées, une diminution des charges de 10% lorsque cela est possible ou encore la vente du patrimoine financier, comme l'explique le maire de Saint-Imier, Corentin Jeanneret.
Effectivement, c'est une des mesures qu'on a retenues, cette vente du patrimoine financier. C'est tout ce qui nous reste encore, ça doit évidemment être mis en œuvre, c'est une décision de principe. Maintenant, il appartiendra aux autorités compétentes de ratifier ceci. On peut penser notamment à l'immeuble locatif qu'on a à la rue de la Clé numéro 37, mais aussi à d'autres biens qui font partie de notre patrimoine financier et qui, à terme, seront proposés à la vente parce que c'est des bâtiments qui nous coûtent plus qu'ils ne nous rapportent et que dans une situation compliquée qui est la nôtre pour le moment, on n'a pas vocation à entretenir tout ce patrimoine financier. On préfère le vendre et que ça soit repris par d'autres personnes.
On parlait aussi de la diminution de 10% du montant de charges dans chaque compte où cela est possible. Diminution de 10%, comment on peut diminuer 10% entre guillemets dans chaque compte?
Alors ça doit être étudié par chaque service et par chaque département. Maintenant, ce 10%, il est donné à titre indicatif. Parfois, ce sera possible. Parfois, ça ne le sera pas. Il est évidemment clair que ça ne doit pas se faire au détriment de la sécurité ni de nos employés, ni des administrés. Donc, dans certains endroits, ça ne sera pas possible, mais on est convaincu qu'il reste encore un peu de marge dans certaines lignes au budget et c'est dans ce but-là qu'on a arrêté cette décision.
On a des propos recueillis par Anthony Montandon. L'ajournement de projets et le gel des salaires font aussi partie des mesures décidées mardi. Le conseil municipal aimerait que le nouveau budget passe à la commission des finances le 16 décembre prochain pour que le conseil de ville puisse se prononcer en janvier 2025. Parents ou enseignants, tous se sentent démunis lorsqu'ils s'aperçoivent ou apprennent qu'un enfant est harcelé. Un phénomène tristement répandu qui appelle des réponses. Ce mercredi à Saint-Imier, la thérapeute française Emmanuelle Piquet, une sommité dans le domaine du harcèlement scolaire, a fait salle comble. Son action se base sur l'enfant victime et les méthodes qui lui permettront de se défendre. Une approche qui applique aussi l'entourage. Emmanuelle Piquet.
C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans cet entourage. Simplement, c'est la posture de cet entourage, moi, qui me semble vraiment extrêmement importante. C'est que soit on se met en posture garde du corps, c'est-à-dire qu'on se met entre l'enfant et les enfants harceleurs, ce que notre amour de parent ou notre indignation d'enseignant nous pousse à faire, enfin logiquement. Sauf que quand on se met entre les deux, en mode garde du corps, on envoie un message au harceleur que l'enfant harcelé ne sait pas se défendre tout seul. Et on envoie un message à l'enfant harcelé qui dit en substance « toi, tu sais pas faire tout seul ». Donc, dans les deux cas, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on renforce paradoxalement la fragilité de l'enfant harcelé. Donc, moi, je pense que l'entourage est absolument primordial, mais qu'il faut pas se mettre entre l'enfant et le monde, il faut se mettre à côté de l'enfant pour l'aider à être au monde. Le message implicite qu'il y a derrière tout ça, c'est quand même de dire, et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez, que l'enfant harcelé a des compétences immenses. Et que il suffit qu'il soit étayé, il suffit qu'il soit assuré, il suffit qu'il soit accompagné pour qu'il puisse finalement puiser dans ses propres ressources pour faire des choses lui-même en étant, je le redis, accompagné. Et c'est ça qui lui donne confiance en lui, en fait. C'est de faire les choses qui redonnent confiance en soi. C'est pas quand les gens font des choses à notre place.
Voilà, et selon l'enquête PISA, 19% des élèves suisses âgés de 15 ans admettent avoir subi du harcèlement sous forme de moquerie en 2023. Un chiffre certainement plus élevé, sachant qu'il est souvent difficile d'en parler. Cette démission au conseil municipal de Villeray, Carlos Châtelain quittera son poste à la fin de l'année. Il est responsable du dicastère des travaux publics et aura siégé à l'exécutif durant 10 ans. Comme le prévoit le règlement, les 4 signataires de la liste Villeray 2025 disposent de 10 jours pour présenter une candidature pour le remplacer. Ça fait 120 ans qu'il supporte la place centrale à Bienne. Aujourd'hui, le pont de la Suze a besoin d'une remise en état. Des inspections ont récemment révélé les dégâts de corrosion. Et si la ville n'entreprend pas rapidement des travaux, eh bien la sécurité du pont ne pourra plus être garantie. Le conseil de ville doit se prononcer en décembre sur une demande de crédit d'engagement de 4,5 millions de francs. Les détails de Roger Accordon, responsable des infrastructures de la ville de Bienne.
À l'époque, les gens ils sont passés avec des attelages des chevaux. Maintenant, ils passent avec des 40 tonnes. Donc, il n'est plus apte à porter ces charges à long terme. C'est pour ça que cet assainissement est nécessaire.
Les dégâts, ils sont surtout liés aux voitures?
C'est toute la corrosion, tous les impacts de l'environnement. Il est juste vieux maintenant, ce pont. C'est normal que l'armature dans le béton, elle est rouillée. Elle porte plus qu'elle devrait porter, du coup, c'est un peu le tout qui fait qu'il doit être assaini.
Justement, il faudra quoi pour le rénover, ce pont?
C'est deux différentes procédures. Sur la partie où il y a le restaurant, on va l'assainir depuis le dessous. Sur le reste du pont, on va carrément démonter puis remplacer par une structure nouvelle, une structure porteuse en béton armé qui entrera à nouveau les 100 ans prochains.
Il s'agira de lui donner une nouvelle jeunesse aussi visuellement?
Principalement maintenant, le projet qui est au conseil de ville au mois de décembre, c'est vraiment la structure et puis le pont. Il y a une deuxième affaire qui est en préparation, c'est l'assainissement de la place elle-même. Par contre, cela, on va être discuté l'année prochaine. Là, on a un peu de temps. L'assainissement du pont va durer 2 ans. On sera à l'heure avec l'assainissement de la place.
Voilà, des propos recueillis par Manon Becker pendant les travaux de réfection du pont sur la Suze. Eh bien, les grandes manifestations et marchés seront déplacés, mais il sera possible toujours de l'emprunter. Cette fois, c'est officiel. Le concordat sur le transfert de Moutier entrera en vigueur au 1er janvier 2026. Les gouvernements bernois et jurassiens l'ont annoncé ce matin. Ils ont également décidé de mesures anticipées dès 2025 pour permettre la bonne préparation du transfert dans certains domaines. Nathan Turcher casse les codes et mélange les saveurs. Le compositeur originaire de Moutier jouera demain à Chantemerle avec d'autres musiciens. Un récital classique autour des jeux vidéo. Dans cette représentation nommée Univers, son objectif est de lier les musiques de ces derniers à la musique classique. Final Fantasy ou encore The Legend of Zelda, les mélodies devraient parler au grand public. L'objectif étant de casser les codes de la musique classique. Nathan Turcher.
Une particularité artistique qui a pas mal de succès, c'est le ciné-concert, où on essaye d'allier la musique classique avec la musique de film. C'est-à-dire que dans une salle de concert, on projette un film et on a coupé volontairement la bande-son pour que l'orchestre symphonique puisse la rejouer en direct. Et c'est une manière de montrer que la musique classique n'est pas si guindée que cela ne puisse paraître, et essayer d'ouvrir un petit peu les voiles, ouvrir un petit peu les perspectives de la musique pour qu'elle soit accessible à d'autres publics aussi, à montrer aussi à d'autres publics tels que les publics du film ou du jeu vidéo que cette musique apparaît aussi dans leur passe-temps favori, dans le film, dans le jeu vidéo.
Voilà, concert donc demain à Chantemerle-la-Moutier. Nathan Turcher qui ajoute que de nombreux compositeurs de musique de jeux vidéo s'inspirent de compositeurs classiques. C'est une affaire qui avait fait beaucoup parler ce printemps dans le Jura. Le juge administratif s'est penché ce matin à Porrentruy sur le recours déposé par l'habitant de Clos-du-Doubs qui s'est vu refuser sa demande de naturalisation. L'Assemblée communale avait rejeté la requête de ce ressortissant français établi depuis plus de 10 ans à Épauvillers par 13 voix contre 11 et 6 abstentions. Des citoyens lui avaient notamment reproché de tondre la pelouse le dimanche et d'être peu présent dans le village. Compte rendu d'audience avec Alexandre Rosset.
Le recourant s'est défendu devant le juge face au grief évoqué lors de l'assemblée communale. Il a expliqué avoir une seule fois passé la tondeuse un dimanche ou un jour férié et avoir immédiatement arrêté lorsqu'une voisine le lui a fait remarquer. Un citoyen avait également reproché l'envol de détritus présents autour de la maison. Le recourant a expliqué qu'une bâche en plastique s'était effectivement envolée, mais à une seule reprise. Il a également souligné être souvent en déplacement pour son travail. Le maire Jean-Paul Lachat a reconnu avoir voté pour cette naturalisation, mais il est désormais dans l'obligation de défendre la décision de l'Assemblée communale. Il a ajouté n'avoir jamais reçu aucune plainte au sujet de ce ressortissant français, mis à part un signalement concernant du plastique qui volait dans les champs. La commune lui a d'ailleurs remis un certificat de bonne mœurs. Une employée du service cantonal de la population a expliqué que le recourant remplissait les conditions de la naturalisation et notamment les critères d'intégration examinés. Il a passé le test sur les connaissances du Jura et de la Suisse avec succès.
Voilà, le jugement sera rendu par écrit dans les prochaines semaine. La part de personnes stressées et épuisées au travail augmente toujours. C'est ce que montre le 10e baromètre de conditions de travail de la fêtière syndicale Travail Suisse, dévoilé ce matin à Berne. 4 employés sur 10 évoluent dans un stress permanent. 85% se disent trop épuisés après le travail pour s'occuper ensuite de leurs affaires personnelles. Lutter contre le stress, c'est non seulement prendre soin des travailleurs, c'est aussi dans l'intérêt de l'économie, affirme la vice-présidente de Travail Suisse, la conseillère nationale vaudoise, Léonore Porchet.
D'abord, il faut le caractériser comme un problème grave à prendre en compte, puisqu'on parle quand même de près de 770 000 personnes qui pensent à changer de travail à cause du stress, et notamment la situation du marché du travail où il y a un manque de main-d'œuvre. On doit à la fois considérer que c'est grave pour les personnes et pour l'économie suisse. Pour lutter contre le stress, on doit d'abord le considérer comme un problème de santé au travail et introduire dans la loi sur le travail les risques psychosociaux qui conduisent à des maladies liées au stress. On doit reconnaître le burn-out, par exemple, comme une maladie professionnelle. On doit maintenant vraiment pousser toutes les entreprises à avoir des conditions de travail meilleures qui les protègent, par exemple, du stress.
Voilà le baromètre de Travail Suisse qui met encore en évidence le manque de prise en compte des problèmes de santé chroniques par les employeurs, ce qui accroît le sentiment d'insatisfaction au travail.
RGB, il est 12h27. Alexandre Michler, on va chausser les crampons et puis ensuite les patins.
Sport. Et on débute avec cette grosse baffe pour terminer une première moitié de championnat de haute volée. C'est tout le paradoxe offert par le FC Bienne qui s'est lourdement incliné 5-1 à Delémont hier soir. Pour son dernier match de Promotion League de l'année, les footballeurs célandais sont passés complètement à côté, mais sont néanmoins premiers du classement à la trêve. Le bilan de cette première partie de saison aurait pu être royal, mais le revers d'hier a rappelé que rien n'était encore acquis, selon le président du FC Bienne, Dietmar Faes.
Ce n'est pas seulement un petit avertissement, c'est un grand avertissement. On ne peut pas se permettre d'avoir des matchs pareils. Il faut vraiment qu'on se réveille, qu'on s'adonne à 150%, ça n'existe pas, mais qu'on s'adonne à 100%.
Malgré tout, si on accepte ce match, ça a confirmé ce premier tour que Bienne a des ambitions légitimes de regarder vers le haut et de vouloir jouer la montée pour la seconde partie de saison.
Mais c'est clair, on est premier, on a une infrastructure digne de la Challenge League, et puis on a gagné quasiment tous les matchs, on a perdu 3 matchs, si je ne compte pas le match contre Young Boys. Mais voilà, on a montré qu'on est capable de jouer. On a dominé Kriens, on a dominé Xamax dans la Coupe. D'accord. Alors on voit qu'on a ses qualités, on a ses capacités de jouer sur un niveau, sur un cran plus haut. Mais il faut tirer les bonnes conséquences et puis je suis certain que notre staff va faire le travail nécessaire pour réveiller l'équipe et que l'équipe sera prête pour le deuxième tour.
Voilà, il reste encore un match au FC Bienne avant la trêve. Ce sera le 8e de finale de Coupe de Suisse, mardi à Langenthal. Le HC Bienne, lui, veut confirmer son regain de forme dans le derby face à l'Ours. Les hockeyeurs célandais accueillent Berne ce soir à 19h45 à la Tissot Arena dans le championnat de National League. Après une série de 4 défaites, le HC Bienne a retrouvé la victoire mardi avec un gros succès 6-1 contre Lausanne. Il a l'occasion de retrouver le wagon de tête dès ce soir, mais le plus important reste la prestation livrée sur la glace, selon l'attaquant biennois Johnny Kneubüller.
Moi, personnellement, c'est vrai que je n'ai pas regardé le classement ces derniers jours parce que j'étais assez frustré des résultats. Donc, je ne voulais pas faire face et puis voir notre descente un peu dans le classement. Donc, je vais faire la même chose là. Je ne vais pas regarder notre montée et puis je vais essayer de rester concentré sur le match de vendredi. Ça va être un très gros match. De toute façon, il faut qu'on s'attende à qu'ils arrivent fortes, je pense. Ça va être notre plus grand arme d'être prêt au début du match. pour nous donner les chances de gagner.
Et aujourd'hui, on a quasiment plus d'appréhension à Bienne d'aborder ces matchs avec une équipe décimée. Finalement, vous vous y faites petit à petit?
Ouais, peut-être, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés et puis le line-up, il change beaucoup. Mais je trouve que c'est bien de, justement d'avoir un match comme ça pour montrer aux gens, pour nous montrer à nous-mêmes que c'est l'esprit d'équipe. Et c'est vraiment la volonté qui fait gagner les matchs et c'est pas les joueurs.
À propos recueilli par Jérémy Pignard, le derby entre Bienne et Berne sera à vivre en direct ce soir sur RJB dès 19h30 avec au commentaire Raphaël Chalvera. Voilà, il est 12h30, la fin de ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute la rédaction d'RJB, je vous souhaite une très belle après-midi et un excellent week-end.